Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Vous habitez le Doubs et vous ne savez pas encore si votre bulletin ira au Parti Socialiste ou au Front National lors du second tour. En effet, vous attendiez une consigne de vote de l'UMP et le Nini n'étant pas un parti officiel, vous êtes encore dans le flou. Votre cœur balance, vous êtes perdu, nous sommes là et nous allons vous tirer d'affaire. L'idée, faire une colonne PS, une colonne FN et inscrire dans chacune d'elles les réformes qui vous séduisent. Alors on commence par le FN. Aujourd'hui, on apprend par la Voix du Nord qu'à Hénin-Beaumont, le maire, Steve Briouat, a fait construire un mur contre les vols dans un quartier résidentiel. Oui, un mur, des grillages remplis de pierres à l'entrée d'une impasse, à même la route. Comme ça, ça complique les choses pour les éventuels cambrioleurs, comme l'explique un habitant signataire de la pétition pour la construction de cette barricade. Seul bémol, ajoute le riverain dans l'article, c'est vrai que c'est plus compliqué de repartir pour rejoindre les autoroutes A1 ou A21. Bah oui, forcément, quand on barre une route, on peut moins l'utiliser. Bon, quoi qu'il en soit, si l'idée vous plaît, inscrivez dans votre colonne FN, barrez les routes d'un vilain muret pour éviter les cambriolages. Non, en fait, vous n'êtes plus vraiment obligé de continuer à remplir ce tableau pour être convaincu, si.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez le danseur Benjamin Lamarche qui interprète demain soir Icar de Claude Brumachon au Quai dans le cadre du festival Solo du Centre National de Danse Contemporaine. Nous zoomerons également sur Made in Angers, l'événement qui met en avant les entreprises et entrepreneurs angevins pendant le mois de février. À la fin de l'émission, l'agenda sera présenté par Kadidia et Benjamin. Mais d'abord, parlons jeunes et biture. Ah non, pardon. Parlons plutôt de la prévention des risques liés à l'alcool. Parlons sécurité routière. Après la présentation, il y a 10 jours, de nouvelles mesures pour prévenir les accidents de la route. Comment faire la fête et rester prudent? On en parle tout de suite.
L'alcool, nous sommes nombreux à en consommer. Pour la plupart des jeunes, c'est un incontournable des soirées entre amis, un moyen soi-disant efficace pour faire des rencontres. Mais a-t-on toujours conscience des effets réels de la boisson?
Olivier Delacroix, ses dreadlocks, sa voix à la fois anxiogène et compréhensive, son regard sur la vie, le présentateur d'Alcotest sur France 4 pose une vraie question et m'enlève les mots de la bouche. A-t-on toujours conscience des effets réels de la boisson? Première question et première réponse, c'est pour vous. Fleur Journiac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Noxambule, c'est une équipe mobile de nuit qui arpente les rues angevines pour aller à la rencontre des jeunes en soirée, les jeunes qui font la fête. Alors les jeunes, est-ce que vous croyez qu'ils ont toujours conscience des effets de l'alcool?
Non, je pense pas. Non. Surtout les très jeunes, on va dire, les mineurs qu'on rencontre, non, je pense qu'ils n'ont pas conscience. Après, c'est un produit qui est très commun, donc la plupart des gens pensent connaître très bien les effets de ce produit, mais pas que les jeunes d'ailleurs, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas très bien les effets. Ou n'ont pas conscience de tout ce qui peut découler d'une soirée très alcoolisée, en tout cas.
En studio, pour parler de ce sujet avec nous, nous accueillons également Mathieu Levaillant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président jeunesse et éducation populaire à la FEDESA, la Fédération étudiante des associations angevines. Et avec nous également Sandra Gutleben. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du cabinet du préfet de Maine-et-Loire. Merci à vous trois d'être dans le studio avec moi. En soirée, avant de prendre le volant, est-ce qu'on peut parler des effets positif, hein, avant de prendre le volant, donc en soirée avant. C'est quoi les effets positifs de l'alcool, puisqu'il y en a bien, sinon on n'en prendrait pas?
Il y en a beaucoup.
Fleur Journiac?
Nous, dans le milieu de la prévention, on dit que c'est un lubrifiant social, l'alcool. C'est vrai que ça désinhibe beaucoup, que ça permet d'aller au contact des gens, ça permet à beaucoup de gens de s'amuser, parce que voilà, parfois sans l'alcool, c'est compliqué pour certaines personnes. C'est très convivial, comme la plupart des produits qui peuvent être consommés. Ça permet d'être en groupe, ça permet d'aller vers les autres. Voilà, il y a beaucoup d'effets, comme tous les produits, surtout ceux qui marchent très bien, s'ils sont consommés, c'est qu'il y a des effets positifs.
Mathieu Levaillant.
Oui, et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup de consommation d'alcool chez les étudiants qui trouvent là-dedans une façon aussi de décompresser, parfois avec des études qui sont compliquées, qui sont lourdes, qui prennent beaucoup de temps, et on a ce réflexe le soir d'aller boire un verre avec ses amis, ou parfois des soirées qui sont un petit peu plus alimentées. On le voit surtout à la fin des examens, c'est là où il y a les plus grosses soirées qui sont organisées, donc un lien vraiment entre la consommation et puis sortir un petit peu des études qui sont parfois lourdes.
Sandra Gutleben, je sais que vous n'êtes pas là pour défendre la consommation d'alcool, mais je vous pose la question quand même. Selon vous, quels peuvent être les effets positifs ?
Si je défends la consommation d'alcool, je risque de ne pas rester directrice de cabinet très longtemps dans le Maine-et-Loire. Non, plus sérieusement, si je me remémore les quelques années étudiantes derrière moi, je crois qu'on a tous effectivement fait la fête. Je ne serais pas la rabat-joie de la soirée en disant il faut surtout pas boire, il faut faire la soirée qu'à la tisane et à la verveine. Je suis bien consciente que, un, le discours ne serait pas entendu, deux, c'est irréaliste, et trois, effectivement, je partage l'idée d'un moment de convivialité, de décompression. Ma seule limite à moi, c'est de ne pas perdre le contact avec le réel, donc ne pas se mettre dans un tel état que le lendemain matin, on ne se rappelle plus ce qu'on a fait la veille, et là ça peut notamment concerner les jeunes filles, et après évidemment de ne pas constituer un risque pour autrui en allant prendre le volant et embarquer des copains dans une voiture.
Alors effectivement on parlera du volant, de la route, de la sécurité routière juste après. Simplement, est-ce qu'on peut évoquer les effets négatifs de l'alcool qui ne concernent pas le volant ? Qu'est-ce qui peut nous gâcher la fête quand on a trop bu ?
Bah, déjà, il y a des effets à court terme, il y a des effets à long terme. Donc sur les effets à long terme, c'est quand même pas ce qui touche le plus les jeunes, on dira, mais c'est quand même important d'en parler. Donc tout ce qui concerne la santé ou le cerveau, donc les atteintes au niveau intellectuel, un ralentissement intellectuel, même quand il y a beaucoup d'hyperalcoolisation, quand même, on retrouve les mêmes effets sur le cerveau qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui est alcoolodépendant, du coup. Voilà, au bout de plusieurs hyperalcoolisations.
Tout ce qu'on appelle le binge drinking,
c'est ça,
c'est le fait de boire très vite.
De boire beaucoup en une occasion. Ouais. Donc ça se fait beaucoup chez les jeunes maintenant, ce qui était moins le cas avant. C'est ça, en fait, la vraie évolution de la consommation des jeunes. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des effets à long terme aussi, du coup, sur un ralentissement intellectuel. Voilà. Et puis des atteintes des neurones. Mais bon, c'est pas ce qui nous occupe le plus, enfin, c'est pas ce qui est le plus important, le plus présent. C'est plus les effets sur la soirée en elle-même, donc tout ce qui est incivilité, bagarre, violence, et puis relations non protégées, non consenties, accidents de la route, voilà, tout ce qui est coma éthylique aussi. C'est, par exemple, pour moi, c'est un des effets négatifs auxquels les gens pensent peu, en fait.
Concrètement, sur le terrain, Fleur Journia, est-ce qu'il y a des situations types que vous pouvez nous narrer ici, voilà, de personnes qui ont trop bu? Voilà, comment ça se passe sur le terrain quand on est noxambule un jeudi soir dans les rues d'Angers?
Je peux vous parler de jeudi dernier, par exemple.
Allez, c'est parti.
Qui est plutôt... Donc, c'était la Blue Moon. Voilà, donc, voilà.
Fameuse soirée pour les étudiants.
Tout à fait. Mais alors, jeudi dernier, c'était particulier quand même. Donc, sur 2600 personnes attendues à la soirée, donc une bonne majorité qui prenait les navettes Place Leclerc. Nous, on a passé notre soirée Place Leclerc. On s'est occupé de 14 personnes en quelques heures, quoi, en 3 heures, qui faisaient... Enfin, on a vu une centaine de personnes, mais 14 personnes qui faisaient soit des malaises, soit des crises d'angoisse, soit qui étaient en train de vomir, soit qui étaient tout seuls, tout blancs, inconscients, par terre, soit... voilà. Donc, on a appelé les pompiers plusieurs fois. Il y a la police qui est arrivée à 15, enfin, 15-20 même. Et voilà, il y a eu des gros débordements. Je pense que la sécurité n'avait pas été aussi très bien gérée cette fois-là. Mais par exemple, une soirée comme ça avec du coup mes équipiers, il y a 6 étudiants ou jeunes travailleurs qui travaillent avec moi. C'était leur 3e soirée. Voilà, le débriefing a été un peu long quand même. C'était particulier, mais voilà, c'est ce qui arrive. En général, on voit 1, 2, 3 personnes malades dans la soirée. Bon, voilà, c'était 14 en 3 heures.
Pour pallier ce genre de débordement, il y a une charte qui a été signée par de nombreuses associations étudiantes, S'amuser sans abuser. Une charte signée par la FEDESA, Mathieu Levaillant.
Oui, tout à fait.
Concrètement, c'est quoi cette charte ?
Alors, c'est une charte qui doit avoir entre 3 et 4 ans, qui a été faite par la ville d'Angers en partenariat avec les associations étudiantes, où l'objectif, c'était de la part des associations de s'engager à faire des soirées plus responsables. Donc, ce qu'on entend par plus responsable, c'est avec des débits d'alcool qui soient contrôlés, pas des débits complètement ouverts comme on a pu voir il y a quelques années, comme on peut voir aussi encore aujourd'hui. D'avoir un peu d'encadrement, on parlait de la sécurité juste avant, d'avoir justement un espace barriéré à l'entrée des navettes, avoir un organisme de sécurité qui s'assure qu'on ne retrouve pas des étudiants seuls ou qu'il y ait justement des bagarres comme on peut voir à certaines occasions. Et donc la signature de cette charte, c'est aussi en contrepartie la ville qui s'engage à fournir un certain nombre d'éléments, les barrières pour avoir pour avoir cette sécurisation, des endroits de départ de navettes qui soient protégés, qui soient conseillés aussi selon les jours pour pas qu'il y ait des départs de navettes tout le temps les mêmes soirs, puisque pour les riverains c'est quelque chose qui peut être lourd au bout d'un moment. Donc voilà, c'était vraiment un travail consensuel où les associations s'engageaient à respecter davantage les règles d'organisation de soirée, et puis la ville s'engageait à aider dans cette organisation par la suite les organisateurs.
Mais quand on n'est pas, quand on fait la fête, mais hors d'une association étudiante, voilà, entre copains, sans que ce soit inscrit dans un cadre particulier, quelle solution on peut mettre en place quand on est un organisateur et voilà, qu'on veut juste pas voir ses potes partir en voiture, on peut pas mettre en place des navettes là, Sandra Gutlemen.
Non, on peut pas mettre des navettes, mais je pense que quand on fait une soirée chez soi et qu'on propose à ses amis de consommer de l'alcool au-delà du raisonnable, on leur propose tout bêtement de dormir sur place. Enfin, si on ne propose pas de dormir sur place, on voit au début de la soirée qu'il y en a un qui ne boive pas du tout. Comme ça, il n'y a pas de question sur le grammage qu'on peut avoir. La personne ne boit pas. Je maintiens qu'on peut faire la fête sans boire. Et cette personne ramène les gens, s'il y a un véhicule qui permet de le faire. Sinon, on reste dormir sur place. Ça peut être le SAM qui est organisé de façon informelle entre copains. Ou encore une fois, dormir sur place me paraît une solution aussi qui permet de prendre tout bêtement un petit déjeuner ensemble le lendemain d'une bonne soirée. Ça ne me paraît pas non plus infaisable.
Au sein de la préfecture, donc vous œuvrez plus particulièrement sur la question de la sécurité routière. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour que les soirées étudiantes se terminent pas mal ?
Donc nous, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis quelques mois, c'est de travailler avec les associations étudiantes. Alors il y a plusieurs axes. En termes de sécurité, c'est de leur proposer de travailler avec les sapeurs-pompiers pour voir passer des brevets de secouristes, pour pouvoir encadrer leur propre soirée et faire face au moins au premier malaise. Ensuite, c'est de mettre à leur disposition des alcotests, puisqu'on en a, donc autant les utiliser à l'occasion de ces soirées pour faire de la détection. Trois, on a ce qu'on appelle le PDASR, qui est le plan départemental d'action de sécurité routière, c'est une ligne de crédit, et donc on leur propose de financer une partie de leur projet dans le cadre de la sécurité routière. Donc on a quelques idées avec Mathieu qu'on partage, donc on va essayer de lancer ça sur plusieurs années. En sachant que notre difficulté s'agissant du monde étudiant, c'est que les bureaux tournent. Enfin, les BDE des associations tous les ans sont différents, que souvent ces bureaux sont nommés en septembre. Donc voilà, il y a un temps d'adaptation, il faut qu'il y ait un peu de suivi dans ces actions, parce que sinon on perd à chaque fois nos interlocuteurs.
Et est-ce que ces actions portent leurs fruits pour l'instant ?
Mathieu ?
C'est facile de renvoyer l'appareil sur cette question. Non, on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois avec la préfecture, avec la ville et puis avec les différents responsables associatifs angevins. Sur la question des soirées étudiantes encadrées par des associations, par des BDE, ça porte ses fruits. On arrive, on le voit de plus en plus, on a eu l'occasion de faire une déambulation, de voir que c'est des soirées qui sont bien organisées en règle générale. Il y a de plus en plus de sécurité, il y a de plus en plus de systèmes de navettes mis en place, même s'il reste, comme on l'évoquait avec la soirée de jeudi dernier, des cas particuliers qui restent problématiques. C'est quand même quelque chose qui évolue.
Pardon, mais la soirée de jeudi dernier était pourtant, a priori, il y avait des navettes, voilà, il y avait un service de...
Mais c'est exceptionnel quand même, toutes les années d'avant ça s'est très bien passé. Et voilà, je pense à ça parce que c'est la dernière sortie qu'on a fait, mais bon, la réalité, c'est quand même rarement comme ça. Et là, Luco organise une soirée la semaine prochaine, je regardais... Enfin voilà, il y a plein de choses, les gens qui rentrent, donc qui font ça, mais qui ne conduisent pas. Ils auront 2 euros en plus à la fin s'ils font l'alcotest et que c'est négatif. Il y a des navettes. Il y a bien écrit partout que les gens qui sont très alcoolisés ne seront pas acceptés, que voilà, qu'il faut boire avec modération. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. Georges, vois ce que tu dis, du coup.
Mathieu Levaillant, donc, pardon, je vous ai coupé. Vous disiez qu'effectivement, ça progressait en termes d'associations étudiantes.
Mais la difficulté qu'on a, c'est sur les soirées sauvages, les soirées improvisées, qui soient dans des appartements, soit des bars, où là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle. Et on voit qu'il y a des difficultés, ne serait-ce que sur la voie publique. Les soirées qui sont dans les bars, on l'a vu, bah, tout le monde sort fumer avec son verre, reste dans la rue, sort les bouteilles à porter dans leur sac à dos, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que les consommations dans les bars. Et ces soirées-là, il n'y a aucune façon de les encadrer. Alors on s'est posé la question beaucoup de fois sur comment est-ce qu'on pouvait, comment est-ce qu'aussi les associations étudiantes pouvaient participer à la sensibilisation de ces jeunes, à la sensibilisation lors de ces événements. Et puis c'est des questions qui restent toujours en suspens, où on a du mal à trouver des solutions. On évoquait, est-ce qu'il faut fermer les rues la nuit pour qu'il y ait moins de problèmes, ce qui serait contourner le problème à mon avis. Donc voilà, là il y a plus de difficultés à ce niveau-là.
Sans tuer la vie étudiante, la vie nocturne qui est quand même nécessaire à tout cursus universitaire. Enfin.
Surtout oui, à Angers, oui.
Surtout à Angers, où un habitant sur quatre reste un étudiant, il ne faut pas l'oublier. On le rappelle assez régulièrement, mais c'est important quand même d'assurer la sécurité autour. Je pense le jeudi soir, par exemple, à la rue de Bressigny, c'est important qu'on arrive à assurer la sécurité. Quand on voit ce qui s'y passe tous les jeudis, les voitures qui passent juste à côté des étudiants, c'est quand même une situation qui est problématique et il faut réussir à trouver une solution.
On va continuer cette discussion juste après The Baladurians avec Un éléphant me regarde.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bois ou conduire, il faut choisir. Ouais, si tu bois, ne conduis pas. Il faut choisir, bois ou conduire.
Fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite.
Un petit mix signé Thomas pour mettre l'ambiance dans le sous-marin. Ce soir, on parle des préventions, la prévention des risques liés à l'alcool en compagnie de Fleur Journiac, Nouxambule, Mathieu Levaillant, vice-président de la FEDESA et Sandra Gutleben, directrice du cabinet du préfet de Maine-et-Loire. On sait qu'il y a une grosse part de responsabilité de l'alcool dans les accidents de la route. Sandra Gutleben, est-ce qu'il y a moyen de chiffrer ça?
Au niveau national, on le chiffre à 1 sur 3. Un accident mortel sur 3, donc c'est quand même un chiffre excessivement important, qui n'est pas recentré que sur les jeunes. Là aussi, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas que les jeunes qui boivent au volant, donc il ne faut pas forcément stigmatiser... J'ai été jeune. Les 18-25 ans, l'alcool est un problème global au volant, quel que soit l'âge. Ça peut être un problème aussi comme piéton si on se désinhibe et qu'on fait à peu près n'importe quoi en traversant devant une voiture ou devant un scooter, c'est exactement pareil. Donc c'est une vraie problématique. Nous, on essaye de mener des opérations. Donc on a ce qu'on appelle les opérations sourire à Noël et à Nouvel An. Donc on distribue, on déploie énormément de forces de police et de gendarmerie, donc ça fait très peur, alors qu'en fait on est juste là pour distribuer des alcotextes avant les fêtes. C'est-à-dire qu'on sait que le 24 au soir, ça sera le rendez-vous familial où tout le monde se retrouve, et que notre but, c'est que le 24 au soir, tout le monde rentre entier. Et on fait exactement la même chose le 31, on distribue les alcotests en disant aux gens, on vous donne le moyen de vous contrôler, à la fin de votre soirée, bah, soufflez et voyez si vraiment vous êtes en état de prendre le volant.
En janvier, donc il y a quelques jours, face à ce qu'on appelle les mauvais chiffres de la sécurité routière, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui a décidément pas chômé en ce début d'année, a annoncé des mesures, dont l'interdiction du kit main libre au volant, l'abaissement de la conduite accompagnée dès 15 ans par exemple, et le taux légal d'alcool dans sang est abaissé de 0,5 g à 0,2 g pour les conducteurs qui ont moins de 3 ans de permis. 0,2 g, concrètement, c'est quoi ?
C'est même pas un verre.
C'est même pas un verre.
Enfin, tout dépend combien, il y a combien de temps on l'a bu, en fait. Du coup, l'alcool, ça met une heure à monter vraiment dans le sang. C'est ça qui est un peu compliqué, notamment dans les effets qui sont pas connus des jeunes ou des gens en général. Donc, à 0,5 g, on a 2 verres d'alcool dans le sang. Donc, à 0,2, et encore 2 verres pour les hommes, 2,3 pour les femmes, 1,2. Donc, en gros, on a 1 verre d'alcool dans le sang, quoi.
Donc,
encore.
Le taux d'alcoolémie monte au bout d'une heure, c'est ça ? Mmh. Ça veut dire que, 0,2 g est atteint une heure après l'absorption du verre en entier ? Enfin, 0,25.
En fait, c'est entre 20 minutes et une heure, selon si on a mangé ou pas. Et on élimine un verre entre une heure et demie et deux heures. Donc en fait, c'est trop précis, on ne peut pas donner des chiffres aussi précisément. Ça dépend des gens, du poids,
La personne a mangé, pas mangé,
voilà.
Si c'est...
Un homme, une femme...
Voilà, on a énormément de facteurs, donc je crois que plutôt que de donner une piste aux jeunes qui consiste à dire, globalement, si tu prends juste une bière, tu peux y aller, etc., j'allais dire, le réflexe, c'est ne bois pas si tu prends le volant.
Zéro.
Ne cherche pas à ruser, à être à 0,2, alors que peut-être tu seras à 0,3 et tu seras potentiellement en situation de danger.
C'est dommage parce que ma question suivante, c'était combien de temps il faut attendre après avoir bu une bière pour prendre le volant ?
Eh ben, du coup...
ça dépend pareil.
Ouais, mais globalement, un verre s'élimine en 1h30, 2h. Donc si on veut plus avoir d'alcoolémie dans le sang, il faut attendre 2h. Quoi.
Est-ce qu'il y a des trucs... Allez, Sandra Gutleben, c'est pour vous celle-là. Est-ce qu'il y a des trucs pour éliminer l'alcool plus rapidement ?
Aucun.
Ça n'existe pas.
Ne pas boire.
C'est des idées reçues. Rien. Le café, courir, manger, rien. C'est le temps.
Parce que de toute façon, c'est un taux d'alcoolémie dans le sang. Donc, par définition, vous ne pouvez pas l'éliminer comme ça. Il n'y a pas de produit miracle.
À l'étranger, notamment en Suède, il y a des fêtes sans alcool qui cartonnent en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer débarquer en France ? Ou alors, nous, on aime trop le vin et...
Bon, on pourrait l'imaginer le jour où on saura faire une fête sans alcool. Aujourd'hui, on le voit dans les soirées où on décide de faire, par exemple, ce qu'on appelle un bar à soft pour encourager toutes les personnes qui prennent la route à accéder à des boissons non alcoolisées. Les bars à soft, souvent, c'est quoi ? C'est une bouteille de Coca-Cola de sous-marque posée sur le coin d'un bar. Forcément, c'est pas ce qui va le plus attirer le consommateur. Donc, c'est les idées reçues un peu qu'il faut réussir à changer et mettre en place des choses qui sont sympas, où on peut s'amuser sans alcool. Le jour où on arrivera à mener un vrai bar sans servir d'alcool, par exemple, des choses bêtes, ou avoir des animations en soirée, plus le temps passe et moins on voit d'animations arriver dans nos soirées, la seule animation, c'est l'alcool. Quand on saura mettre en place des soirées avec des bars à soft qui tiennent la route, avec des animations où ceux qui ne boivent pas peuvent s'amuser, je suis persuadé qu'on pourra y arriver. Et on le voit sur certaines animations, sur des concerts, sur des soirées un petit peu ce qu'on appelle nous des soirées alternatives, les gens arrivent à venir, ne pas boire et s'amuser.
On va faire un dernier tour de table pour donner quelques conseils pour ne pas boire, effectivement, mais si jamais on prend pas la voiture et qu'on veut quand même boire une ou deux bières, pour pas être malade, pour profiter de la soirée, voilà. Quels conseils vous pouvez donner aux auditeurs pour passer une bonne soirée ? Alors, si on prend la voiture, on boit pas, ça c'est clair, hein ? J'ai cru comprendre ça. Mais si on prend pas la voiture, Sandra Gutleben.
Moi, j'ai tendance à dire qu'un, il faut pas boire pour boire. Ça peut être une occasion de convivialité, mais le but ne doit pas être d'être sous. On peut aimer un bon alcool, vous parliez du vin. J'aimerais bien que les soirées se fassent au vin. Je ne suis pas sûre qu'elles se fassent réellement au bon vin. Mais partager un bon repas avec un bon vin me pose aucun souci existentiel. Bien au contraire. Simplement, effectivement, on ne prend pas le volant derrière. De la même façon, l'idée, c'est de ne pas essayer d'être sous le plus vite possible. C'est au fur et à mesure d'une soirée, au fur et à mesure du moment où on décompresse après des examens, c'est de le faire de façon mesurée. Et enfin, le dernier conseil, moi j'ai toujours tendance à dire, il faut s'arrêter au moment où on ne se rappelle plus de ce qu'on va faire. parce que malheureusement, il y a le lendemain matin.
Le lendemain matin, souvent très dur. Hein. Mathieu Levaillon.
Oui, je rejoins complètement ce qu'il dit. Et puis, ça va être ce qui est vraiment important, c'est d'anticiper, c'est de ne pas aller à une soirée en se disant j'y vais, je vais boire, je verrai bien comment je rentre. Ça, on le voit trop souvent. On se retrouve à 15 dans un appartement, tout le monde est sous et il n'y a pas 15 places pour dormir. On doit être en cours le lendemain matin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des palliatifs. On se dit bon, ça va, il n'y a qu'un kilomètre en ville, il n'y a aucun risque. Le « il n'y a aucun risque », on l'entend malheureusement trop souvent. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'anticiper. Donc voilà, je sais que je sors, je sais que je risque de boire, je prévois une solution pour rentrer ou pour dormir sur place, et je ne me retrouve pas piégé sur place dans une situation où il n'y a pas de bonne solution.
Fleur Journier.
Oui, je rejoins aussi ce qui a été dit sur donner du sens à la soirée. Peut-être que le sens de la soirée, ce ne soit pas « on sort pour boire », mais peut-être « on sort pour aller à un concert », »,« on sort pour aller à une soirée », voilà. Et puis, évidemment, de ne pas conduire si on a bu... D'anticiper les retours, comme tu disais, et puis de s'hydrater beaucoup. Nous, c'est ça le conseil qu'on donne, puisque si les lendemains sont difficiles, c'est surtout parce que l'alcool déshydrate. Et voilà, de penser à la solidarité dans le groupe, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, des gens abandonnés tout seuls dans une rue, que leurs copains en avaient un peu marre, donc ils sont partis. Donc à la Blue Moon, c'est arrivé plusieurs fois, on a raccompagné des personnes parce que les autres préféraient aller à la soirée et laisser leurs copains très mal. Voilà, donc de penser à ça, quoi. Que quand on part en groupe, on finit en groupe et éventuellement, si on sent que les gens commencent à trop boire, bah, on essaie plutôt de les raisonner un peu gentiment, avec humour, que de les laisser dans un coin, quoi, une heure après.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci.
Merci.
C'était Météore de Seyssey.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Made in Angers a commencé il y a 2 jours et court jusqu'au 27 février. Au programme, visite d'entreprises angevines, week-end thématique, forum pour l'emploi, rencontre avec Jean-Pierre Bernheim, chargé de l'emploi et du développement économique à l'Aglo, l'occasion de lui, pour lui de souligner les 3 objectifs de cet événement.
Oui, il y a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est de faire en sorte que les angevins soient fiers de leur territoire et qu'ils soient nos premiers ambassadeurs à l'extérieur. Le deuxième, c'est que les entreprises qui acceptent de faire visiter l'entreprise écoutent les signaux faibles de ceux qui pourraient être leurs consommateurs et donc progressent par ce regard extérieur de leur organisation et de leurs produits. Et puis enfin, c'est un moyen pour les jeunes de découvrir des métiers et de leur donner envie de réussir dans un métier qu'ils auront vu au cours de Made in Angers.
Selon Jean-Pierre Bernheim, Made in Angers est une formule qui fonctionne des deux côtés.
Ben, les entreprises sont effectivement très satisfaites puisque 95% des entreprises reviennent. Et quant aux visiteurs, effectivement, 68% reviennent d'une année sur l'autre, voire autre chose qu'ils ont déjà visité. Parce qu'évidemment, même en un mois, on ne peut pas visiter les 140 entreprises ou lieux à visiter.
Le vendredi 27 février aura lieu le Forum pour l'emploi, une occasion pour les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion et les étudiants de rencontrer des professionnels et pourquoi pas de dénicher une offre d'emploi. Ce forum serait-il un moyen de pallier la situation de l'emploi sur le bassin angevin ?
Il ne faut pas dramatiser les choses. Le taux de chômage d'Angers-Loire Métropole est très légèrement supérieur à la moyenne nationale. Mais dans ce monde, si on peut faire mieux que la moyenne nationale, ce serait très bien. Donc effectivement, le Forum pour l'emploi aussi comme objectif, qui n'est pas de jouer sur les statistiques, c'est de jouer sur les hommes et les femmes qui ont absolument besoin de trouver un emploi.
Toutes les informations sur Made in Angers, et ben c'est sur madeinangers.fr.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Toute cette semaine au Quai, le Centre National de Danse Contemporaine présente un festival de danse solo. Dans le programme Danse, Icare nous a sauté aux yeux, une pièce signée Claude Brumachon et interprétée par Benjamin Lamarche. Elle s'appelle Icare et sera jouée demain. Pour patienter, nous avons téléphoné à Benjamin Lamarche cet après-midi. Vous noterez une petite réverbe dans ma voix suite à un problème technique. Bonjour Benjamin Lamarche.
Bonjour.
Vous présentez demain au Quai Icare dans le cadre du festival Danse Solo qui est mené par le Centre National de Danse Contemporaine. Icare, c'est une pièce qui a été créée en 1996. C'est le premier et le seul solo que Claude Brumachon a écrit pour vous. Claude Brumachon, que vous avez rencontré en 81. Depuis, vous avez créé de nombreuses pièces, vous avez fondé une troupe, vous êtes co-directeur du Centre Chorégraphique National de Nantes. Quel point commun artistique y a-t-il entre Claude Brumachon et vous ?
Quel point commun artistique ? Ben, il n'y a que des points communs artistiques, c'est une union totale entre Claude Brumachon et moi, c'est notre travail représente notre vie représente l'image qu'on a du monde, celle qu'on aimerait représenter de notre humanité profonde, de notre rapport au corps, le corps étant bien évidemment l'esprit et le corps joints, cette manière que l'on a de vivre, les choses qui sont renfermées en nous, les choses qui sont cachées, les intentions, les illusions, les aspirations, les passions. Claude et moi, c'est une histoire et d'amour et de danse et de vie commune dédiée complètement à cette recherche d'une danse, d'un corps rebelle, d'un corps passionné et d'une envie de transmettre cette chose qu'on a, j'aime pas le mot chose, mais cette chose qu'on a trouvée dans ce rapport à la danse, c'est-à-dire le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à l'espace, au corps, aux matières de la nature, aux matières de la terre, du vent, de l'animalité, et la transmettre aux danseurs et la transmettre au public, de manière à peut-être réussir à ouvrir dans les esprits des imaginaires, ouvrir des portes, débloquer des blocages. Je fais une redondance, mais c'est un peu ça, voilà. Rapidement dit.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que raconte Icare ?
Qu'est-ce que raconte Icare ? Au-delà du mythe d'Icare que tout le monde connaît.
Votre Icare.
Oui, alors c'est en même temps un rapport, une profonde aspiration à quelque chose, c'est-à-dire ce désir d'envol. Alors ça peut être l'envol pris au sens réel du terme, au sens concret, prendre un envol et puis voler, mais c'est aussi l'envol dans la vie, l'envol d'une aspiration, l'envol des désirs, c'est la recherche du cette exaltation qui fait qu'on est dans une recherche de quelque chose qui serait autre, un autre monde, une autre vie qui serait toujours la nôtre, mais qui serait au-delà du quotidien, au-delà du terrestre concret et répétitif de nos petits déboires personnels. Et c'est cette aspiration-là. Qu'est-ce qui s'est passé chez Icare? C'est ça, hein, Icare, il est dans un rapport à la Terre, et donc la Terre, on pourrait presque dire, c'est un rapport à l'impossibilité de quelque chose. Et dans ce dédale, dans ce labyrinthe que lui a construit son père dédale, il est dans son labyrinthe, et donc c'est cette impossibilité, il est sur lui-même, il est dans ses affres, dans ses peurs, et l'envol, c'est l'aspiration. Mais il y a l'exaltation, mais il y a les impossibilités permanentes contre lesquelles on se heurte, contre lesquelles et les échecs de la vie, mais de ces échecs-là, toujours refaire une possibilité d'aller plus loin, toujours redonner un espoir à chaque échec, à chaque chute. Dans les cas, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de lâcher, il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup d'envols, mais il y a beaucoup de retombées. Et toutes ces retombées, tous ces envols sont autant de réussites et d'échecs, de possibilités et d'impossibilités qui font qu'elles construisent notre humanité.
Vous le dansez depuis 1996, cette Icare, ouais. Vous l'avez dansé, je ne sais pas, plus de 130 fois, il est écrit sur votre site. Ça fait bientôt 20 ans. Icare, votre Icare, s'est-il modifié, sculpté, adapté depuis le temps?
Alors, on n'a pas modifié du tout la chorégraphie elle-même. Elle n'est pas du tout modifiée. Elle est vraiment telle qu'elle. Elle est une chorégraphie. C'est pour nous, pour Claude et moi, ce qui est important dans l'idée d'une chorégraphie, c'est que l'œuvre existe. L'œuvre est là, elle est juste, elle a marqué un temps, et les personnes qui ont envie de la revoir, les personnes qui en ont parlé, les personnes qui ont envie de la voir parce qu'ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu des choses, revoient la même chose, pas comme un film, parce qu'évidemment, c'est pas un film, mais qu'ils puissent revoir cette pièce. Donc c'est pas une adaptation. Maintenant, nécessairement, l'interprète qui fait la pièce avait X années en 96, 35, il en a 53 maintenant. Donc, bien évidemment, il a un corps qui est différent, il a une maturité différente, il a un vécu différent, il a une façon de rentrer dans le geste, il a une liberté totale dans ce mouvement, mais il ne représente plus une certaine jeunesse, pas encore évidemment, j'espère, la vieillesse, mais il représente une autre forme d'être, bien que ce soit la même. Et ça aussi, je pense que dans cet Icare que je joue maintenant, il y a tout ce vécu. Et quand on voit un interprète danser, un très jeune interprète, on est souvent ému, touché, profondément bouleversé par sa candeur, sa naïveté, sa virginité dans les choses de la vie. Et quand on voit un interprète majeur danser, j'ai l'extrait de ce mot-là, on peut être ému par toujours son désir, toujours son profond investissement dans cette passion qu'il a, mais avec une forme de certaines connaissances. Donc ça fait que les illusions sont plus les mêmes. Elles existent encore, on a toujours des illusions, jusqu'à 80, 90 ans. On a toujours des désirs, on a toujours des profondes aspirations, mais elles changent. Donc la pièce elle-même n'a pas changé, l'interprète, lui, a avancé dans le temps.
On peut lire dans le dossier du CNDC que l'interprète soliste, c'est l'interprète et l'auteur de sa danse. Là, vous, Benjamin Lamarche, vous interprétez un solo qui a été créé par Claude Brumachon, par quelqu'un d'autre. Comment s'est passée la transmission entre le créateur et l'interprète? C'est votre corps, en fait, qui porte l'idée de Claude Brumachon. Comment ça se passe?
J'ai toujours défendu fermement le fait d'être un danseur, d'être un interprète. C'est-à-dire, je suis en possession d'un corps, d'une dextérité, de certaines possibilités, aussi certaines impossibilités, d'une manière d'être. Et je suis totalement ouvert aux propositions du chorégraphe. J'ai toujours vraiment défendu le fait que je ne suis pas chorégraphe. Chorégraphe et danseur sont deux choses, à mon sens, extrêmement différentes. Pas forcément opposées, mais au moins très différentes. Et on peut être interprète et non chorégraphe, ou chorégraphe et non interprète, on peut éventuellement aussi être les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Claude et moi, on se connaissait très très bien déjà à l'époque, ça faisait quand même 96, 80, vous voyez, ça fait calculer 15 ans de vie commune, donc il y avait une connaissance. Moi je suis un passionné de nature, de montagne, d'oiseaux, j'aime la gentelée pour ce qu'elle représente de frais, de libre, de fragile, de perpétuel mouvement, de perpétuelle recherche, et puis de beauté du trait, ces dessins japonais qu'on peut voir sur des maisons, sur des tout, je perds mes mots. Et donc, il savait, il connaissait mon goût pour cette nature et aussi cette misanthropie, mais quelque part une méfiance envers l'homme. J'aime l'homme, mais je suis toujours méfiant de ce qu'il peut être parfois trompeur et parfois aguicheur et parfois séducteur et parfois menteur et parfois aussi tout à fait vérité et amour. Mais il y a toutes ces choses-là chez l'homme qu'il n'y a pas dans le nature avec un grand N. Et donc, c'est venu tout seul. Il y a certaines choses qu'il m'a montrées, certaines choses qu'il m'a demandées. Certains passages, il m'a dit, tiens, il m'a donné une idée de départ, il m'a dit, écris donc quelque chose. Il est revenu, il a regardé. Il y a ces barres parallèles qui sont extrêmement importantes, je pense que vous allez m'en parler tout à l'heure, et qui représentent énormément de choses. J'ai souvent tendance à dire que ce n'est pas un solo, Ika. C'est une pièce avec de nombreux personnages qui m'accompagnent, de nombreuses choses. Il y a la veste qui m'accompagne, il y a la chaise qui est là. Il y a les barres parallèles qui sont là, il y a le pantalon qui vient avec moi, il y a un bâton, et c'est autant d'éléments, il y a les barres parallèles qui sont là, autant d'éléments comme réminiscence d'un passé, possibilité d'un futur, et communication avec l'objet, mais avec l'objet représentant quasiment une anima, quelque chose d'animé. Donc là, ça s'est fait vraiment très rapidement, ça s'est fait dans la compréhension et la communication directe. Après, il faut répéter, il faut avoir faut que le corps rentre dans l'histoire, il faut trouver le souffle, il faut trouver la qualité pure et puis non pas la chose exécutée avec obéissance. Donc ça, c'est le travail, il est plus là-dedans. Ma création, elle s'est faite en comme un souffle, presque comme une écriture automatique, on va dire.
Pour Claire Grousier, Benjamin Lamarche, Claire Grousier qui est la directrice adjointe du CNDC aujourd'hui, le solo, c'est l'une des figures emblématiques et singulières de la modernité en danse. À vos yeux, le solo, quelle place il a dans l'histoire de la danse ?
Dans l'histoire de la danse, je serais peut-être pas assez bien placé pour vous parler de l'histoire du solo. Le solo a une place assez particulière dans le sens où... C'est de la chorégraphie, mais c'est effectivement pas totalement une un acte chorégraphique dans le sens où il n'y a pas de rapport à l'autre, si ce n'est à soi-même et si ce n'est à d'autres, inexistant mais présent. Et il est évidemment assez tourné vers l'individu. Il est sur l'individu. Cet individu qui va se retourner vers l'universel et qui va happer chacune des personnes du public dans ce qu'il est lui-même. Donc s'il est tourné si moi je vais sur scène pour raconter Benjamin Lamarche, ça n'a aucun intérêt. Si je vais sur scène pour raconter ce que l'individu dans sa solitude, dans son acceptation du monde, dans sa recherche d'un autre chemin est, alors l'autre, le public peut se retrouver. Le solo, il est particulier. Pour ça, maintenant, le resituer moi dans l'histoire de la danse, il y a eu des solos extrêmement forts. Hein, il y a eu des solos, Claire est sûrement beaucoup mieux placée que moi pour vous en parler, mais il y a des solos, il y avait Neil ou le Cristal qui sont, Hervé Gasnas qui a touché énormément dans son temps. Il y a eu le solo de Carl Stone, il y a eu des solos écrits par Béjart il y a très longtemps, il y a eu des solos actuellement qui sont aussi extrêmement... qui marquent des temps parce qu'ils sont des points de convergence et peut-être aussi de divergence dans le sens où ils sont des points d'où va éclater les graines, d'où vont partir l'autre. C'est-à-dire le non-solo, le duo, trio, quatuor, et puis après on peut aller jusqu'à 35, je ne sais pas combien de personnes on peut mettre sur scène dans une chorégraphie. Donc le solo serait la fleur et la chorégraphie serait les graines.
Vous parliez de Claire Rousier en disant Claire parce que je crois que c'est votre premier cours de danse contemporaine, vous l'avez appris avec elle, non ?
Oui, j'habitais une petite ville de banlieue parisienne, une belle ville de banlieue parisienne, et il y avait des cours de danse contemporaine qui se sont ouverts dans cette ville, et j'ai été prendre les cours, et la prof s'appelait Claire Rousier, c'était en 79 ou 80, je ne sais plus, et ça m'a beaucoup plu, je n'avais pas préconçu de faire la danse, mais je me suis tout de suite senti happé, et c'est elle qui m'a effectivement dit, ah mais t'as des choses à voir, t'as des choses à faire, viens donc à Paris, et donc je suis allé à Paris, bon c'était un coup de métro, et là j'ai rencontré d'autres façons de bouger, d'autres personnes, d'autres chorégraphes, j'ai beaucoup travaillé avec Claire au début, après c'est perdu de vue pendant très 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 longtemps, bien qu'on soit toujours resté un peu dans cette en connexion avec tout ce que ça veut dire, mais et puis c'est dans un cours de Claire Rousier aussi justement en 81 rue Marcadet, ça s'appelait le lieu pour une création, où elle donnait un stage un week-end de janvier 1981 où il y avait un autre danseur dans ce cours Et cet autre danseur s'appelait Claude Brunachon. Donc en fait, on s'est rencontré Claude et moi dans un cours de clair. Donc oui, c'est quand même quelqu'un, évidemment, c'est quelqu'un qui est marquant pour le fait que j'ai commencé la danse. Après, tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, ça était aussi de toute un apprentissage et de plein de nourriture céleste pour pas Gide, mais elle m'a sûrement été importante pour ce mouvement initial que j'ai pris dans la danse.
Et aujourd'hui, quel lien est-ce que vous avez, Claude Brunachon, et vous, avec le CNDC, hormis le fait, bien sûr, d'être présent demain ?
Eh bien, demain, on a la Brunance, on a fait des formations continues pour le danseur l'année dernière en commun, c'est-à-dire qu'on avait fait une programmation commune de cours qu'on a donné nous, chez nous, à Nantes, et là-bas, à Angers, on avait fait une communication commune. Moi, j'ai été jury il y a 2 ans pour la sélection des étudiants. Robert est venu donner des cours ici à Nantes pour rencontrer le public professionnel nantais. On a une relation et puis on se parle, on se croise, on se voit. Après, on n'a pas une coopération permanente et très importante, mais on a une coopération qui est là, qui est présente et qui veut dire qu'on est dans une... Même si les travaux et les esthétiques divergent, les envies et les désirs sont communs.
Merci beaucoup, Benjamin Lamarche, d'avoir été avec nous au téléphone aujourd'hui.
Je vous remercie à vous.
Icare, c'est donc demain, jeudi, à 20h30 au Quai, dans le cadre du festival Temps Fort Solo.
c'était Matt Truss avec The Pop Group.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir est présentée par Khadidia et Benjamin, nos deux stagiaires cette semaine. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors on commence avec les propositions de Benjamin pour ce soir.
Ce soir, dès 21h, une soirée étudiante pour le championnat Beer Pong. Cette compétition festive reprend pour sa 4e édition au Calypso Café. Le principe de ce jeu consiste à lancer une balle de ping-pong à la main sur une table afin de la faire atterrir dans l'un des 6 ou 10 verres de bière à l'autre extrémité. À consommer avec modération, bien sûr. C'est une soirée gratuite avec des styles de musique variés. Toujours à Angers, à partir de 20h30, Laissez-moi être une lionne, pièce de triade féminine payante de 5 à 12 euros à l'espace culturel de l'Université d'Angers. Laissez-moi être une lionne, par la compagnie Gaïa, raconte un voyage à deux aux frontières de la vie. Deux comédiennes explorent les liens qui se tissent entre mère et enfant, le couple, etc. Autre activité au choix ce soir à 21h30, une scène ouverte, acoustique au T-Rock Coco, avec du matériel à dispo. C'est une scène qui vous permet de venir jouer vos compositions ou vos reprises sans avoir besoin d'amener votre matériel.
Merci Benjamin, c'est au tour de Khadidia de nous dire où sortir ce soir.
Ce soir, il y a un concert, ça s'appelle Zike Zoom. Et c'est au Shabbat. C'est une soirée apéro concert sur l'économie sociale et solidaire avec un groupe local. On y trouve des rencontres et découvertes d'entreprises, des offres de stages et des dégustations solidaires. C'est de 18h à 21h et c'est gratuit.
Et toute cette semaine auquel le CNDC organise son temps fort solo, qu'est-ce qu'on peut y voir ce soir?
Un spectacle de flamenco. Ou une danse espagnole proposée par Rocío Molina et Rosario, la Tremendita, ça s'appelle Afecto. C'est à partir de 20h et ça coûte de 8 à 23 euros.
Merci beaucoup à vous deux pour vos idées de sortie pour ce soir. On termine l'émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Thomas Premier Plan, l'authentique fondateur du festival Premier Plan, était invité de Sine Qua Non hier soir.
Nous accueillons maintenant, pour alimenter notre débat sur l'ennui, celui qui serait l'authentique fondateur du festival Premier Plan, Thomas Premier Plan. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous nous faites l'honneur de nous apporter un scoop ce soir. Comment avez-vous eu l'idée de Premier Plan?
J'adore tout ce qui est consensuel. J'adore Yannick Noah, j'adore Le Grand Journal. Qu'est-ce que j'adore encore? J'adore la liberté. Alors voilà, un jour je remarque que 90% des premiers films réalisés par des cinéastes européens sont justement totalement consensuels. Alors j'ai eu envie de récompenser ces réalisateurs qui font l'effort ô combien difficile quand on est jeune et fougueux et rageur de produire des films de vieillard tiède qui n'a plus envie de chercher.
Bon, venons-en au fait, vous affirmez que Claude-Éric Poirou, le fondateur officiel du festival Premier Plan, vous aurait volé l'idée. Comment ce vol a-t-il pu être possible?
Monsieur Hitchcock, vous semblez douter de ce que je dis. Comment vous expliquer, si je suis en train de vous mentir, que le festival porte mon nom?
Répondez à ma question, monsieur Premier Plan. Répondez à ma question, s'il vous plaît.
Nous sommes en juillet 1988. J'ai du temps avant un rendez-vous crucial avec un potentiel investisseur, alors je vais voir Piège de Cristal avec celle qui sera bientôt Madame Premier Plan. Et à votre avis, qui d'autre avait décidé d'aller voir Piège de Cristal ce jour-là?
Claude-Éric Poirot.
Oui, et il a eu tout le loisir d'écouter mes conversations qui portaient fatalement sur mon petit projet. Le film se termine, je remarque que le siège de Monsieur Poirot est vide. Peu importe, je me rends à mon rendez-vous. Là, on m'annonce que c'est annulé. Non, pas reporté, hein. Annulé. Furieux, je fonce dans le bureau de l'investisseur potentiel, et à votre avis, qui est-ce que j'y surprends?
Ouais, ok, ça m'a l'air un peu gros votre histoire quand même.
La prochaine fois que vous croiserez Monsieur Poirot, dites-lui « Yippee-ki-yay, motherfucker !» Vous verrez qu'il pigera pas du tout la référence. Ce qui prouve bien qu'il n'est pas resté jusqu'à la fin du film.
Vous pouvez réécouter la totalité de Sine Qua Non sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Pas de panique, l'émission geek de Radio Campus Angers. Salut Salker.
Salut Tiffen.
De quoi ça cause ce soir dans Pas de panique?
Ce soir, on entame un triptyque consacré aux MMO, en l'occurrence les jeux massivement multijoueurs en ligne. Et on entame cette première émission en parlant des free-to-play, les jeux gratuits en ligne. Voilà, avec toute la compagnie, toute la team presque au complet.
Et tout le vocabulaire de gamer, quoi.
Qu'on vous expliquera, bien sûr, assidûment.
Merci beaucoup, donc à 20h sur le 103FM. Nous, on se retrouve demain à 19h. On recevra des étudiants de l'UA qui organisent vendredi une journée d'études intitulé « Archives et démocratie à l'ère du numérique ». Merci à Khadidia, à Benjamin Merci à Maëlle pour la réalisation et à Thomas pour la co-préparation de l'émission. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.